Alors, Michel Alabaud est organiste à Saint-Séverin à Paris et fondateur de l'ensemble de musique baroque Les Parodies organisées à Lille. Patrick Calais s'intéresse à la voix et au théâtre en tant que lecteur-comédien. Ils ont imaginé ensemble un ambitieux projet théâtral et musical en triptyque, Bossieux Oratorio, dont la question des semblables constitue le premier volet. Michel Alabaud en assure la direction musicale et Patrick Calais la conception et le montage des textes. La mise en scène est confiée à Stéphane Véru. Marie-Christine Barrault, François Clavier et Roland Depeau seront les voix du spectacle et les musiciens des parodies organisées se retrouveront pour célébrer l'art baroque, mais pas seulement. Ça, c'est la surprise du deuxième volet pour la musique contemporaine. Alors, Patrick Calais et Michel Alabaud, pourquoi s'intéresser aujourd'hui à Bossuet? On va commencer par Patrick Calais. Et Michel Alabaud, il réfléchit pendant ce temps-là à ce qu'il va dire sur Bossuet.
Si je peux me permettre, moi j'étais bien, et puis c'est Philippe hein, qui a fait la chronique.
C'est François.
François. Mais on parlait de l'ennui, et moi j'étais bien, je m'ennuyais depuis tout à l'heure, parce que j'adore ça. Et donc, laissons la parole à Patrick, comme ça je vais pouvoir continuer.
Ouais, tu vas pouvoir t'ennuyer. Ouais.
Alors, on a été tous frappés par l'ennui, parce que m'étais dit, si jamais on me demande de lire quelques lignes de Bossuet, qu'est-ce que je pourrais lire? Alors j'ai préparé quelques petits passages.
J'espère bien, on peut commencer par Bossuet.
Mais j'en ai passé tout de suite en écoutant notre ami à un autre. Et si vous permettez, j'aimerais lire. Parce que c'est le début du projet, en fait. Sur la scène, voilà ce qu'on va commencer d'entendre dans la bouche de Marie-Christine Barrault. L'un des plus grands malheurs de la vie mondaine, c'est qu'elle est toujours empressée. J'entends dire tous les jours aux hommes du monde qu'ils ne peuvent trouver de loisirs. Toutes les heures s'écoulent trop vite, toutes les journées finissent trop tôt. Et dans ce mouvement éternel, la grande affaire du salut, qui est toujours celle qu'on remet, ne manque jamais de tomber tout entière au temps de la mort, avec tout ce qu'elle a de plus épineux. Et un petit peu plus loin, il dit « Mais les mondains, toujours dissipés, ne connaissent pas l'efficace de cette action paisible et intérieure qui occupe l'âme en elle-même. Ils ne croient pas s'exercer s'ils ne s'agitent, ni se mouvoir s'ils ne font du bruit. De sorte qu'ils mettent la vie dans cette action empressée, tumultueuse, ils s'abîment dans un commerce éternel d'intrigues et de visites qui ne leur laissent pas un moment à eux. Ils se sentent eux-mêmes quelquefois pressés et se plaignent de cette contrainte. Mais chrétiens, ne les croyez pas, ils se moquent, ils ne savent ce qu'ils veulent. Celui-là qui se plaint qu'il travaille trop, s'il était délivré de cet embarras, ne pourrait souffrir son repos. Maintenant, les journées lui semblent trop courtes. Et alors son grand loisir lui serait à charge. Il aime sa servitude et ce qui lui pèse lui plaît.
Effectivement,
on change pas de sujet.
Voilà, ça pouvait pas mieux tomber. Et je précise que personne ne s'est concerté. D'ailleurs, il ne savait pas forcément avant que François Hyde allait faire sa chronique sur l'ennui. Alors, donc je reviens à ma question, pourquoi Bossuet finalement? Parce que voilà, on peut s'intéresser quand on est musicien de musique ancienne à d'autres écrivains en quelque sorte. Et vous, Patrick Calais, pourquoi Bossuet?
Pourquoi Bossuet? Bon, c'est une histoire, hein, on a chacun une histoire. Et ici, je dirais que... Moi, il m'est arrivé simplement, pour la dire brièvement, que j'ai été séduit par la langue, la parole de Bossuet. Et en y repensant, il y a quelque temps, je me disais que Bossuet, dans son discours de réception à l'Académie française, disait qu'il fallait apporter grand soin à faire en sorte que la langue française soit durable. Et je trouve assez étonnant ce mot, hein, dans une époque aujourd'hui, où on pense à beaucoup de choses qui devraient être durables. Bossuet, au XVIIe siècle, a fait en sorte, dans son œuvre, dans sa vie, a fait en sorte que la langue française soit durable. Et on imagine assez mal, on connaît peu aujourd'hui, à vrai dire, pourquoi sa langue a si profondément pénétré notre langue commune, et combien d'écrivains se sont nourris de Bossuet pour écrire bien, pour écrire français. Et donc, ayant découvert cela, j'ai découvert que c'était un artiste avant d'être un prédicateur, même si c'est d'abord un orateur, bien entendu. Et en parlant avec Michel, on a pensé que... On avait, Michel et moi, un petit peu l'idée de chercher quelque chose qui nous permettrait de faire quelque chose en commun. Et parlant de Bossuet artiste, Bossuet artiste baroque, comme lui, c'est Michel, c'est l'homme du baroque, il a eu l'oreille pour ça aussi.
Alors, Michel Alabaud, l'homme du baroque, pourquoi Bossuet?
Alors, Patrick vient de parler d'oreille. J'ai eu l'oreille pour la voix de Patrick aussi. Évidemment, il ne va pas le dire, mais je pense que vous l'avez tous entendu aussi. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a parlé de ça. Il avait évidemment ce projet en amont. Et on se connaît depuis maintenant, je pense, depuis 1984, si mes souvenirs sont bons. Parce qu'il faut peut-être rappeler que Patrick avait réalisé un très beau film sur l'orgue. C'est-à-dire, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Organiste et facteur d'orgue de la région Nord-Pas-de-Calais. Et c'est Patrick qui était à l'époque à la région, qui avait fait la réalisation de ce film. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, voilà, on a maintenu des relations. Et quand il m'a parlé de ce projet et qu'il m'a lu quelques extraits de Bossuet que personnellement je n'avais pas lu, je connaissais Bossuet parce que j'avais un disque d'orgue de Xavier Darras dans les années 70 dans la collection Chef-d'œuvre de l'art. Et sur le texte de présentation de ces pièces de Couperin, les messes de Couperin pour orgue, on parlait des sermons de Bossuet à Saint-Gervais notamment, puisqu'on parlait de Couperin était organiste à Saint-Gervais. Et donc, pour en revenir à l'oreille et à la voix, c'est aussi la voix de Patrick qui m'a séduit, et cette oralité, cette musicalité dans le texte de Bossuet, plus que, j'allais dire dans un premier temps, plus que le texte lui-même.
Pourtant, dans la musique baroque, c'est le texte qui donne la musique, finalement, qui donne naissance à la musique.
C'est le texte et l'instrument, tout est lié.
Mm-hmm. Oui, en tant qu'organiste, vous...
Non, mais même en tant qu'instrumentiste, d'une manière générale, mais même en tant que chanteur. Je pense qu'il y a une interaction entre le texte et l'instrument. Et à un moment, on ne sait pas d'où vient la portée. On va dire que c'est le texte qui porte, mais c'est la façon dont il est porté aussi, donc la façon dont il est dit, dont il est restitué. Et là, il y a une incidence terrible entre l'instrument et le texte lui-même.
Oui, il y a une étroite imbrication entre texte et musique, et ça, c'est la particularité de l'âge baroque. Alors, Bossuet Oratorio, c'est un triptyque, on l'a dit, un oratorio en trois mouvements, en quelque sorte, j'imaginais. Alors, vous pouvez un petit peu nous expliquer ces trois mouvements. Patrick Calais, qui lui, finalement, a fait le livret.
Et oui, c'est Patrick qui a fait le livret. Donc le gros travail.
Voilà, qui a imaginé ces trois mouvements, je pense.
Le travail de départ, disons. Oui. Ce qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est que le lien entre la parole et la musique, en la circonstance, c'est l'art rhétorique. Et que Bossuet, bien entendu, est un maître, comme il y en a peu, dans la rhétorique, qui est un art. Et la musique baroque, on le sait mieux aujourd'hui, témoigne d'une très grande époque et cette musique baroque a aussi sa rhétorique, et finalement ce que nous voyons bien maintenant, Michel et moi, c'est que elle se combine bien toutes les deux, rhétorique de oratoire et rhétorique musicale.
Et si on donnait la définition de rhétorique, peut-être.
C'est l'art de l'éloquence, tout simplement.
L'art du discours.
Oui, l'art du discours.
Voilà. Bah, c'est quand même mieux en le disant.
Oui, mais c'est vrai que c'est bien jugé de le faire repréciser, parce que je pense que Bossuet a souffert d'être présenté comme un écrivain, un littérateur, alors qu'il n'y a qu'une façon heureuse de l'entendre, c'est justement de le faire proférer pour que le public puisse l'entendre. Or, je ne sais pas si dans les collèges et les lycées, on enseigne encore Bossuet, mais je redoute qu'on ne fasse que le lire, ou de gloser dessus, à son propos.
Bon. En tout cas, il faudrait au moins le lire à voix haute, mais je doute qu'on lise et qu'on étudie Bossuet dans les lycées aujourd'hui.
Bon. On va essayer d'en redonner le goût.
À quoi fait référence le titre que vous avez choisi pour le premier volet, La question des semblables ?
Alors, donc Bossuet, c'est trois spectacles. Les trois spectacles combinent ensemble texte et musique. Le premier, on l'appelle La question des semblables, parce qu'il est composé, si je peux dire, sur trois sermons ou discours. Il y a un panégyrique et deux sermons qui ont pour thème commun les riches et les pauvres. Et donc, La question des semblables, parce qu'il y a un moment dans l'un de ces textes, Bossuet évoque le fait que les pauvres et les riches sont semblables, et il le dit de manière assez radicale et forte, et d'où le titre. J'ai pas besoin de préciser que ce que nous vivons dans cette période-ci fait que ce thème est pas innocent, enfin c'est D'une part, l'éloquence de Bossuet à ce propos est très très forte. C'est un thème constant chez lui. Mais l'entendre aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'écotiers ou de journalistes ou d'essayistes qui parlent aussi fort que lui sur ce thème. Le deuxième volet, le deuxième spectacle de ce triptyque, comme nous disons, nous l'avons intitulé « La vie, la mort, la vie » et il a pour thème, pour texte de base, le sermon sur la mort de Bossuet, qui est un sermon assez saisissant, peut-être le plus grand des discours de Bossuet. Et autant le premier volet est composé avec une partie musicale fortement inspiré de musique baroque française, avec des improvisations, Michel va en parler, je suppose, à la manière française de l'époque. Autant ce second volet sur le thème de la mort est un dialogue entre Bossuet et Jean-Sébastien Bach, parce que Bach aussi est un grand rhétoriqueur, comme on peut dire, et il a composé beaucoup sur la mort avec un regard un petit peu différent. Et c'est un dialogue qui s'avère tout à fait fécond. Le troisième volet, par contre, c'est un oratorio au sens un peu plus traditionnel, c'est-à-dire il y a un livret qui est écrit spécifiquement pour l'occasion et qui est non pas de Bossuet, mais qui est fait, si je peux dire, avec du Bossuet. Comme on fait de la mayonnaise avec un œuf et de la moutarde, là, le texte est fait avec tout ce qu'on peut trouver dans le gisement d'écriture de paroles de Bossuet.
Donc vous avez fait, comme aurait fait Lucien Suel, un cut-up.
Peut-être. En tout cas, on est plus proche là de la vision traditionnelle, sur le plan formel, enfin un certain plan formel, c'est-à-dire il y a des personnages, il y a une action dramatique, et là par contre, la musique est contemporaine, c'est-à-dire Michel a des amis qui composent et qui se mettent à la tâche pour mettre en musique ce livret.
Et on citer son nom, c'est quand même Dominique Vasseur.
Oui.
Ah. Alors Michel peut développer ce point. Oui, très bien. Voilà grossièrement, schématiquement présenté les trois volets.
Très bien. Alors Michel Alabaud, cette question des semblables et l'improvisation en musique française.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Patrick pour le troisième volet. Où il a parlé d'une sorte de compilation de textes. En ce qui concerne la musique, pour le premier volet, c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire qu'on prend, donc il l'a dit tout à l'heure, de la musique existante, contemporaine, peu ou prou, de Bossuet, et on la compile, on l'utilise, on lui donne une fonction, même des œuvres qui au départ n'ont pas de fonction, elles viennent commenter le texte, enfin discourir avec ce texte de Bossuet. Et quand je parlais de compilation, et vous parliez tout à l'heure de cut, ça me faisait penser, on parlait de montage tout à l'heure avec le cinéma, là aussi des pièces écrites certaines vont être triturées, si on pouvait employer une impression.
Oui, il va y avoir des coupages, des collages.
Voilà, coupage-collage, mais avec un matériau existant qui peut être de Couperin. Tout à l'heure, vous avez passé du Forqueray, vous parliez de Brossard, on pense aussi à Marin Marais, on pense à des choses comme ça. Alors, toujours par rapport à la musique employée, il y aura un matériau assez important provenant de la musique d'orgue. Vous savez que depuis quelques années, donc les parodies organisées, c'est leur fonds de commerce, entre guillemets. Enfin, en tout cas, l'idée, le projet artistique initial des parodies, c'était de transcrire un certain nombre de musiques françaises baroques pour une formation orgue et orchestre. Plus ou moins développé, et voilà. Et donc l'idée pour Bossuet, c'est d'abord d'utiliser ce matériau que j'ai déjà utilisé pour des concerts. Hein, et puis prendre aussi d'autres œuvres. Je veux dire par là que, notamment dans la musique d'orgue, on a, à l'époque de Bossuet, on a à l'évidence un langage commun entre le langage de l'orgue et le langage instrumental et le langage vocal. Enfin, tous les organistes de cette époque étaient compositeurs et ils ne composaient pas spécialement pour orgue, ils avaient le même langage. Bon, on sait aussi que très vite, les organistes français ont été, certains par goût et par conviction, d'autres parce que c'était commercialement plus intéressant, se sont très vite intéressés au langage de Lully et ont un peu accaparé ce langage de Lully et dans la musique d'orgue. Donc, tout ça pour un peu situer la musique utilisée. Et pour en venir à l'improvisation, puisque c'était votre question, eh bien, on sait aussi que les musiciens de cette époque-là étaient tous improvisateurs, et notamment les organistes. Et donc, on va rendre aussi à l'improvisation cette fonction, non pas de, en ce qui concerne les organistes, par exemple, au XXe siècle. Souvent, l'improvisation, c'est pour clôturer un concert. Je pense aux grands organistes français, notamment, que nous avons, et qui sont des grands spécialistes d'improvisation. Mais elle n'a que cette fonction-là. Il s'agit de lui rendre sa fonction de l'époque baroque, où elle venait aussi commenter, où elle permettait de raccorder certaines parties. Dans la liturgie, c'était ça. L'organiste qui improvisait, c'est parce qu'il fallait qu'il soit cut au bon moment, il fallait qu'il finisse, qu'il fasse une cadence, etc. Donc, ceci étant, dans les pièces d'orgue de cette époque-là, Couperin, Marchand et autres, notamment chez Michel Corrette, par exemple, on trouve dans la partition des astérix, et des endroits où l'organiste peut couper si la pièce est trop longue.
Voilà, c'est une question de timing.
C'est une question de timing. Donc l'improvisation, c'est aussi pour ça. D'une part, pour créer aussi quelque chose qui soit plus vivant et plus spontané, forcément. Hein, mais aussi, dans un but pratique et fonctionnel de timing pour coller au maximum au discours.
Et à la scène, donc. Du
et coup. À la scène, et aussi au fait que, puisque c'est un spectacle vivant, espérons que les comédiens ne diront pas de la même manière deux fois pour deux spectacles différents. Et donc l'improvisation peut permettre aussi de suivre leur jeu plus facilement.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que Bossuet préparait ses sermons, pour frapper l'imagination, à la manière des discours des hommes politiques d'aujourd'hui ?
Ah, il faudrait savoir comment préparent d'ordinaire leurs discours les hommes politiques d'aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que Bossuet pratiquait les points. Alors, qu'est-ce que c'est que des points ? Des points, c'est des petits pavés de texte sur une idée, sur un thème. Par exemple, on prend le mot ennui, on écrit, le jour où on est inspiré, on écrit 10 lignes là-dessus. Et puis on met ça dans son tiroir et puis on s'en sert parce que dimanche prochain, de la même façon que Bach, puisqu'on l'a cité, avait chaque dimanche une cantate à composer, Bossuet, il avait souvent, dimanche prochain, un sermon à proférer. Et donc, quand il était un peu court, il allait dans son tiroir et regardait quel point il avait par rapport à un thème. Et donc, il agglomérait des points comme ça et il mettait un fil conducteur et il sortait un nouveau discours. Autrement dit, c'est des grands points d'ancrage, de référence de sa parole, de sa pensée. Il les a construits tout au long de sa vie et dès son très jeune âge, vers 14-15 ans probablement. Et en même temps que parallèlement, il faisait des petits pavés de référence de l'écriture sainte, par exemple. Et donc il avait une mémoire très remarquable. Et donc il pouvait improviser, mais toujours avec des points forts qui étaient souvent repris plusieurs fois, retravaillés, c'est jamais deux fois la même chose. Et on sent une pensée qui mûrit, même si le style aussi mûrit d'ailleurs. Sur la question des semblables, ce qui est assez curieux, c'est que on exploite, si je peux dire, trois discours de Bossuet, et l'exploitation qu'on en fait est chronologiquement inverse par rapport à la chronologie qui les a fait prononcer. Autrement dit, les textes les plus vigoureux sont ceux qu'il a dit quand il était jeune, et on les trouve à la fin du spectacle, alors que quand il commence à être un petit peu plus arrondi, enfin, il a moins envie ou moins d'audace pour faire du rentre-dedans, hein, pour parler grossièrement. Ça, c'est au début du spectacle. Mais enfin, c'est quand même assez fort, quoi, de toujours. Hein. Et aussi, puisque on a cité le nom de l'artiste principal qui va réaliser ce spectacle, Marie-Christine Barrault, et qu'on a parlé de la voix, de musique et de Kathleen Ferrier. Ça m'a fait penser tout à l'heure qu'il se trouve, je ne sais pas si vous, tout le monde le sait, mais Marie-Christine Barrault a étudié pendant 20 ans le chant. Et sa grande référence, c'est Kathleen Ferrier. Et quand on écoute Marie-Christine Barrault, on comprend qu'il y a là deux voix qui sont un peu cousines, finalement. Et donc, c'est une voix et une artiste tout à fait pertinente par rapport à ce choix pour dire du Bossuet. Même si c'est un paradoxe encore, que ce soit une femme qui profère des...
Mais là, vous n'êtes plus à un paradoxe près, j'ai l'impression, voilà. dans ce triptyque Bossuet Oratorio. Michel Alabo et Patrick Calais, merci. On espère voir très bientôt Bossuet Oratorio à Lille et dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous n'avez pas encore de date.
Non, c'est en discussion.
Non.
Mais ça va venir.
Est-ce qu'on peut dire une petite chose à propos de la production, justement, de ce spectacle?
Eh bien, en 15 secondes.
Oui. Les temps sont ce qu'ils sont, hein. On comprend ce que ça veut dire. Et donc, très concrètement, l'équipe professionnelle qui est en train de monter ce spectacle monte aussi la coproduction. Et donc, ceux qui sont intéressés au projet peuvent aider à la coproduction.
Voilà, donc voilà. Un appel aux financeurs, finalement.
Ouais, voilà,
ou un soutien au mécénat.
Pourquoi ne pas le
voilà,
dire.
Voilà, exactement. Donc, on peut chercher la question des semblables Bossuet Oratorio sur Internet. On trouve le blog et on trouve des tas de petites vidéos intéressantes, d'ailleurs, qui présentent le projet. Et j'invite tous les auditeurs à aller y faire un tour.